Tamani, voici nos informations en français.
18h à Koro, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici le sommaire. Toujours pas de compromis entre le gouvernement et les anciens signataires du 15 octobre 2016. Les négociations ont une nouvelle fois échoué cette semaine. L'application de l'article 39 reste le point de blocage. Le bureau de l'Assemblée nationale compte 22 membres, dont 6 femmes, une composition que certaines femmes parlementaires n'approuvent guère. L'insécurité est de plus en plus récurrente dans le centre du pays. Le village d'État a été la cible d'une attaque cette semaine faisant plusieurs morts. Assetou Kanté est à la présentation de cette édition. Le bras de fer continue entre le gouvernement et les enseignants signataires du 15 octobre 2016 en grève depuis plusieurs mois. Les négociations qui avaient repris cette semaine entre les deux parties ont une nouvelle fois échoué. Les enseignants exigent l'application de l'article 39. Pendant ce temps, le gouvernement a fixé au 2 juin la reprise des cours pour les classes d'examen dans les établissements publics et privés. Cela avec ou sans les enseignants grévistes. Fatih Yattara nous fait le point.
Selon les enseignants grévistes, l'échec des négociations de coûts toujours d'une mauvaise volonté des autorités à sauver l'école malienne. Les enseignants regrettent que le gouvernement reste campé sur sa position, malgré que les syndicats aient revu à la baisse ses exigences concernant l'application de l'article 39. Ousmane Almoudou, membre du syndicat signataire du 15 octobre 2016.
Le gouvernement est toujours dans son refus d'appliquer la loi. Les syndicats ont dit au gouvernement, vous avez évoqué des raisons financières. On est d'accord que le pays est dans une situation difficile, mais nous sommes d'accord avec vous pour que nous puissions échouer les paiements en fonction de vos moyens. Nous allons échelonner les indices ou, si vous voulez, les pourcentages jusqu'en 2021. Mais avec tout ça, le gouvernement dit qu'il ne peut pas aller dans ce sens-là.
Le gouvernement, de son côté, se dit toujours prêt à poursuivre les négociations. Toutefois, selon le département de l'éducation, d'autres dispositions sont prises pour sauver l'année en cas d'échec de prochaines négociations. Kinan Agadeda, secrétaire général du ministère de l'éducation.
L'absence des enseignants suite aux grèves est un challenge important pour nous. Mais malgré tout ça, nous avons pris des dispositions en relation avec nos partenaires des écoles privées et avec les enseignants volontaires et certains enseignants qui opèrent dans l'administration scolaire. Nous allons essayer d'assurer la rentrée scolaire le 2 juin. Et puis après, en espérant que les négociations aboutissent, les autres collègues vont nous rejoindre pour effectivement continuer.
En attendant un dénouement erré entre le gouvernement et les syndicats grévistes, beaucoup de parents disent ne plus savoir à quel sens se vouer.
Et cet échec des négociations entre le gouvernement et les enseignants signataires du 15 octobre 2016 porte les germes d'une année blanche, préviennent certains observateurs. Ils appellent les deux parties ainsi que les acteurs et partenaires de l'école à s'investir davantage pour trouver un compromis. Boubacar Bokoum est analyste politique. Il est joint par Fatih Yattara.
Tout laisse à croire aujourd'hui que nous sommes en train de nous acheminer vers une année blanche, dès lors que tous les deux camps campent sur leur position. Il est important que le gouvernement comprenne que l'avenir de la nation dépend fondamentalement de la qualité de l'enseignement. Aux enseignants, je leur dis juste qu'il faut faire souvent preuve de sagesse tout en continuant les négociations afin que cela aboutisse. L'éducation aujourd'hui connaît beaucoup de difficultés. Le niveau déjà est très bas et si au détriment de tout cela, on arrête simplement d'aller à l'école, je pense que ce serait un très grand gâchis pour la nation malienne. C'est un retard encore de 15 à 20 ans que nous allons acquiescer. Je pense qu'on aurait dû tout mettre en œuvre aujourd'hui pour que la reprise annoncée du 2 juin soit une reprise effective et que les enfants puissent avoir le minimum de formation possible.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Je vous l'annonçais dans le titre, quelques semaines après la rentrée parlementaire et l'élection du président, le bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place ce jeudi. Il est composé de 22 membres, dont 6 femmes. Un seul poste de vice-présidence est tenu par une femme. Des femmes parlementaires s'insurgent contre cette composition qui n'a pas respecté la loi sur le genre. Lundi Moussa Diallo.
10 vice-présidents, 2 questeurs et 10 autres membres, c'est la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale mise en place ce jeudi à Bamako. Le poste de premier vice vice-président revient à Hadi Niagando du parti Mouvement pour le Mali. Celui du premier questeur est confié à Wali Diawara du parti Adema, élu en commune 1. L'ancien questeur, également candidat à la présidence de l'Assemblée, se contente du poste de troisième vice-président. La loi sur le genre, qui prévoit 30% des postes nominatifs et électifs pour les femmes, n'a pas été respectée. Dans ce nouveau bureau, il compte seulement 6 femmes parmi les 22 membres, une situation qui dénonce certaines femmes. Madame Dila Assitan Diallo, députée élue en commune 2.
La loi 052 n'a pas été respectée au niveau de la mise en place du bureau, parce qu'on a 27% de femmes dans le bureau. Mais on a jugé nécessaire de rappeler à l'ordre le président de l'Assemblée nationale.
Pour ces femmes parlementaires, l'Assemblée doit être la première institution à respecter cette loi, parce que c'est elle qui l'a votée en décembre 2015. À cela, la réponse du président de l'institution n'a pas tardé. Moussa Timbine.
C'est vrai qu'on a voté cette loi en vue de veiller à ce que les femmes et les hommes puissent évoluer ensemble. C'est pour ça qu'on dit la loi du genre. Mais il y a des insuffisances dans la loi elle-même. Je pense que la commission promotion de la femme, de l'enfant et de la famille va pouvoir nous faire une proposition concrète pour corriger ces insuffisances-là lors de la législature.
Dila Assitan Diallo et ses collègues promettent de se battre toute la durée de leur mandat pour que la loi sur le genre soit appliquée.
Direction le centre du pays où le village de Tama, communément appelé Wogon, commune de Ségué, de la région de Mopti, a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi par des individus armés non identifiés. Selon des sources locales, plusieurs morts, mais également des dégâts matériels ont été enregistrés. Cette attaque a créé la panique dans le village et provoqué les déplacements de la population, nous dit une autorité dans la zone, jointe par Elisabeth Wallet Mohamed.
Une attaque a eu lieu la nuit du 27 au 28. Bon, c'est des individus armés qui ont pris d'assaut le village aux environs de 19h20. Le bilan en compte aujourd'hui 14 hommes, une femme, 4 blessés. Des maisons brûlées, des charrettes blessées, des animaux enlevés. Bon, vous savez, la population, elle est là sans assistance. Il y a eu des déplacés, ces réfugiés dans les villages environnants pour éviter les feux. C'est la panique des forces de sécurité.
Toujours dans la région de Mopti, l'armée a annoncé sur son site web l'arrestation de 6 présumés terroristes dans la localité de Kamaka Sebe. Selon les FAMA, les suspects ont été remis à la gendarmerie pour des besoins d'enquête. Rôle de la femme dans le maintien de la paix, c'est le thème de la journée internationale des casques bleus célébrée ce 29 mai. Cette journée a été l'occasion pour les responsables de la MINUSMA de faire le point sur la mission de l'ONU au Mali. À ce jour, le Mali compte près de 13 000 casques bleus des Nations Unies déployés dans le pays. Olivier Salgado, chargé de communication à la MINUSMA, joint par Mouda et Sophie Maïka.
C'est une journée qui rend hommage au personnel civil, policier et militaire pour leur contribution inestimable au travail de l'ONU partout dans le monde. Elle constitue aussi l'occasion d'honorer la mémoire de plus de 3 900 casques bleus qui ont perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies depuis 1948. Vous connaissez les défis qui nous sont posés par le terrorisme, notamment la météo, des tempêtes de sable, des tempêtes de pluie. Et je crois qu'il faut faire la part des choses entre ceux qui réellement ne comprennent pas le mandat et ceux qui ont décidé de ne pas le comprendre parce qu'ils nous voient plus répondre à des problématiques de terrorisme. C'est une mission extrêmement dangereuse. Au fur et à mesure du temps, c'est aussi une mission qui a appris à s'adapter au terrain dans lequel elle évoluait.
À présent, la situation de la COVID-19 au Mali. Le pays a enregistré ce vendredi 29 mai 32 nouveaux cas positifs, 17 patients guéris et un décès. À ce jour, la situation cumulée fait état de 1226 cas positifs, 669 guérisons et 73 décès. Ces nouvelles contaminations proviennent de Kaye, Koulikoro, Tombouctou et le district de Bamako.
C'est ce qui ouvre la page d'Actu Covid. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir le laboratoire de l'Institut National de Recherche en Santé Publique, INRSP. C'est l'un des laboratoires où s'effectuent les tests de Covid-19, mais le Mali compte 4 laboratoires d'analyse pour le coronavirus. Avec Moussa Malé Sissoko, nous partons à la rencontre des agents qui travaillent au labo de l'INRSP.
Ici, seuls les laborantins ont accès à ce laboratoire. Ils y rentrent protégés de la la tête aux pieds. L'accès à la salle est interdit à toute personne étrangère. Mais derrière les vitres, on aperçoit le travail qu'effectuent les agents. Ils décontaminent d'abord les échantillons, ensuite ils procèdent aux analyses. Dr Brehima Guindo est chef de ce laboratoire et recherche biomédicale. Selon lui, les prélèvements se font dans les centres de santé de référence avant d'être acheminés au laboratoire.
Les tests, ça commence depuis les étapes de suspicion d'un patient ou qu'un patient soit un contact d'un positif. Donc un prélèvement va être effectué. Tous les prélèvements réalisés sont systématiquement acheminés au niveau de l'INSP. Et en ce moment, l'INSP les traite et aussi, dans l'heure qui suit, les achemine aussi dans les labos qui sont concernés.
Le chef du laboratoire et recherche biomédicale de l'INRSP précise que les kits utilisés pour les tests sont fiables et homologués par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dr Guindo indique que chaque laboratoire peut réaliser au maximum 200 tests par jour.
Avoir un résultat, ça varie entre 4 à 6 heures de temps. Les échantillons qui parviennent dans l'après-midi aussi parviennent dans les labos 18 heures. Ils sont traités et les résultats seront disponibles vers les 23 heures.
Du début de la pandémie à ce jour, plus de 5000 tests ont été effectués au Mali, dont plus de 1000 déclarés positifs. Selon des sources médicales, plus de 300 malades sont sous traitement.
La région de Tombouctou a reçu ce vendredi un laboratoire mobile d'analyse, une initiative saluée par les responsables sanitaires de la localité qui envoient auparavant les tests à Bamako. Selon eux, ce dispositif leur permet d'être plus rapide dans le diagnostic et la prise en charge d'un malade de coronavirus. À présent, la question d'auditeur, ensuite la réaction du professeur Akori Al-Iknan, coordinateur national de lutte contre la COVID-19.
J'aimerais savoir ce qui explique l'incohérence quant au chiffre des personnes en contact qui sont suivies.
Quand vous avez un cas qui est suspect et qui a été diagnostiqué positif, toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec lui sont potentiellement des sujets qui peuvent porter le virus. Et quand vous êtes suivi pendant la période d'incubation, au terme de cette période, vous sortez des contacts et s'il y a de nouveaux cas, ça peut augmenter. Donc ça s'explique aisément. On peut avoir aujourd'hui 1900 contacts et demain se retrouver à 800 contacts.
Ainsi prend fin ce numéro d'ActuCovid. À demain pour d'autres informations sur le coronavirus. Retenez bien, évitez les poignées de main ainsi que les accolades pour vous protéger de la COVID-19. Studio
Tamani. L'école à la radio, c'est le nouveau programme que Studio Tamani et ses partenaires lancent à partir du 1er juin. Selon le représentant de NRC qui appuie ce programme, il s'agit d'assurer la continuité pédagogique des élèves de la première et de la deuxième année de l'enseignement fondamental en cette période de pandémie de COVID-19. Écoutons Prosper Nkwe Mansoy, représentant du Conseil norvégien pour les réfugiés, au micro de Lalaisha Wallet Infa.
Le programme de l'éducation à distance pour NRC est vraiment une opportunité pour que les enfants qui sont à la maison à cause de la pandémie de COVID puissent apprendre et puissent rester dans une normalité de l'éducation et qu'ils ne perdent pas toutes les connaissances acquises avant l'arrêt des activités éducatives. L'objectif du programme pour l'apprentissage à distance pour les enfants à travers la radio pour qu'ils apprennent tout en étant chez eux à la maison. D'abord, du moment où les enfants apprennent chez eux, déjà ça leur donne une occupation et les enfants ne seront pas dans le désordre. Les enfants vont rester dans l'apprentissage. Les enfants vont toujours garder leurs connaissances pour que le jour où l'école va reprendre, que tous les enfants puissent reprendre.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et n'oubliez surtout pas, tenez-vous informés et suivez les conseils de votre médecin pour éviter le coronavirus.